Oui, alors je m'excuse pour le changement de salle parce que en fait j'étais pas prévenu. Voilà, donc je vais tâcher de tirer ça au clair. J'avais pensé que ça pourrait aller de pair avec la baisse prévisible des effectifs, mais cette baisse ne se produisant pas. Donc là, il va y avoir un certain nombre de gens qui vont être assis un peu inconfortablement. Donc je ne sais pas si c'est juste pour aujourd'hui, vous avez besoin du grand amphi, ou si maintenant tous mes cours vont avoir lieu ici. De toute façon, alors il va rester. En comptant ce cours-ci, il reste donc quatre cours, suivis chaque fois d'un séminaire. Il doit y avoir en plus 1 heure de séminaire. Bon, on verra, soit ça aura lieu le 6 mars, soit peut-être je m'arrangerai pour que fin février, j'ai la salle 3 heures en fait, ce qui permettrait d'avoir un cours et 2 heures de séminaire. Puisque bon, les séances de séminaire vont être assez bien remplies grâce à la bonne volonté de divers collègues qui ont accepté d'intervenir donc en contrepoint de choses qui ont été vues au cours. Tout à l'heure, donc, Bertil Lyonnais va faire une présentation sur ce qu'on peut appeler la crise urbanistique ou la désurbanisation, enfin comme elle voudra la nommer, en Asie centrale, dans la période qui va de l'âge du bronze, qui s'étend sur l'âge du bronze final et l'âge du fer ancien. Donc ceci prenant le prolongement des présentations que nous avons eues sur les sites de l'âge du bronze. La semaine prochaine, Étienne de la Vessière présentera ses nouvelles découvertes et hypothèses sur l'urbanisme militaire couchant, ce qui sera en rebond direct sur un certain nombre de choses que je vais expliquer aujourd'hui à propos de Campyr TP. Ensuite, il y aura une séance au moins sur les cultes d'Aïr-Hanoum et les cultes en Bactriane hellénistique en général, où j'ai pu avoir la participation de Paul Bernard, de Lauriane Sève et d'Henri-Paul Francfort. Je pense que ça pourra justifier 2 séances. Et puis, on aura donc une séance avec Michael Schenker, et peut-être Paul Bernard aussi, j'espère bien, sur la question épineuse des cultes ou non-cultes domestiques. Dans les villes kouchanes, quelque chose que je vais rapidement aborder aujourd'hui à propos de Campyr TP, mais sans y insister beaucoup, puisque ça mérite véritablement une discussion approfondie en séminaire. Oui, donc nous en étions dans le cours précédent, j'avais donc introduit l'histoire du site et ses premières phases, la phase hellénistique, où le site n'est pas une ville et n'est pas fortifié, est uniquement un petit établissement artisanal qui grandit, semble-t-il, mais ne reçoit pas de forteresse. Et puis, sa première fortification à la citadelle, à l'époque pré-Kouchane, disons, Yuezhi pré-Kouchane, probablement 1er siècle avant Jésus-Christ, début du 2e siècle. Voilà la première fortification, une époque qu'on peut considérer correspondre à la domination de l'un des 5 Yabgu Yuezhi qui se sont partagés la Bactriane, en l'occurrence, selon ce que j'ai proposé, le Yabgu de Gaofu, qui semble être celui qui est établi dans cette région, et dont plus tard le siège est dit être à Termez. J'introduisais la phase où, à l'époque, déjà des grands couchants, et probablement sous le second souverain, Sotermegas, alias Vimataktou, c'est discuté, mais enfin, il semble que maintenant la balance penche en faveur de l'identité des deux personnages, fin du 1er siècle de notre ère. La ville base de Campyr TP se trouve elle-même fortifiée et la citadelle en fait subsiste, est habitée, mais perd sa fonction militaire. On avait donc vu que tout raisonnement fondé sur Campyr TP est à la fois un site fouillé aux trois quarts dans ce qui en subsiste. Donc c'est évidemment aujourd'hui la ville Kushan la mieux connue, toute catégorie, où que ce soit, en Inde, en Asie centrale, en Afghanistan. Mais en même temps, nous savons que ce qui subsiste n'est peut-être que la moitié ou le tiers, ou les deux tiers de ce qui a originellement existé et est tombé dans la Moudaria. Et donc il y a un ensemble de, disons, les raisonnements, un certain nombre de, d'arguments a silencio qu'on peut proposer à partir de ce qui est connu par la fouille aujourd'hui, doivent être maniés avec une grande prudence, puisque nous ne pouvons faire que des hypothèses sur ce qui a aujourd'hui disparu. C'est en particulier, à mon avis, ça pourrait être l'explication de l'absence totale de temples dignes de ce nom, si on élimine les supposés sanctuaires domestiques, dans la partie fouillée. À mon avis, le temple, il est tombé dans la rivière et il était au bord de l'eau, comme on le sait que c'était le cas dans d'autres villes, Tartis Sanguine ou Termez. Bien. Nous allons donc aujourd'hui aborder un peu plus en détail cet état dit Grand Kushan. Le mérite du site, c'est qu'il nous donne une photographie donc, de ce qu'est une ville Kushan pendant une période brève. La durée de vie de la ville basse couvre trois règnes Kushan. Sotermégas, celui qui l'a bâti probablement, Vimakatfisès, son fils et successeur, et le grand Kanishka, le petit-fils, le plus grand des Kushans, dont le règne s'arrête vers 153 après Jésus-Christ. Après lui, la ville est désertée, pour des raisons sur lesquelles on va être amené à revenir, probablement naturelles. Ce qui, évidemment, nous donne... c'est une occasion unique, et c'est pour cette raison, évidemment, que les fouilleurs de Tashkent ont choisi ce site comme le site clé pour l'étude de l'urbanisme kushan et de la vie urbaine à l'époque kushan, c'est qu'il on a vraiment un instantané sur une durée de vie qui a été de deux générations. La fouille de cet état kushan, donc de la ville basse, a permis de clarifier et de rectifier plusieurs conceptions qui avaient cours jusqu'alors s'agissant des villes kushan et de leur urbanisme. Il s'agit de deux points. Le caractère régulier ou anarchique du réseau des rues et, deuxième point, lié au précédent, le caractère fonctionnel ou non des installations défensives. Et là, pour ça, on a pu faire des très très grands progrès grâce aux résultats de Kampir Tepe. Alors, l'idée qui avait cours auparavant sur la base principalement de la fouille de Dalverzin Tepe, dont je vais être amené probablement à parler lors d'un prochain cours, et qui était, avant Kampir Tepe, la ville Kushan la mieux connue, un site d'une trentaine d'hectares, qui est au nord de Kampir Tepe, qui a dû avoir une réelle importance politique, peut-être aussi la capitale d'un des cinq Yabgu. Lorsque l'équipe qui allait plus tard fouiller Kampir Tepe a publié Dalverzin Tepe, ils ont insisté sur le caractère labyrinthique des rues. En effet, le relevé n'est évidemment pas extrêmement parlant, mais on voit que, à part une... on ne distingue pas de réseau orthogonal de rues. On distingue un axe qui est cette rue principale, mais qui elle-même a un tracé sinueux. Et les fouilleurs, et notamment Galina Pugachenkova, avaient tenté de théoriser sur ce caractère labyrinthique et y avaient vu un choix. Et Pugachenkova s'était appuyée sur un passage d'Aristote, donc dans Le Politique 7.11.6, que je cite. Quant à l'ordonnancement des maisons, on considère qu'il est plus plaisant et plus commode s'il est régulier, à la façon nouvelle, celle d'Hippodamos, donc l'agencement en damier. Mais la sécurité en temps de guerre, c'est tout au contraire la façon... Mais pour la sécurité en temps de guerre, c'est tout au contraire la façon d'autrefois qui est la bonne. Car les troupes étrangères qui auraient éventuellement pris la ville ont alors du mal à trouver la sortie et les assaillants ont du mal à s'orienter. Aussi faut-il combiner les deux méthodes. Et là, donc Aristote poursuit, quelques blocs bien disposés pour faire joli, mais globalement, un réseau un peu justement labyrinthique qui ne facilite pas les mouvements des troupes. Paul Bernard, dans son compte-rendu extrêmement détaillé et plein d'idées nouvelles, dans le compte-rendu qu'il avait donné à l'époque de la publication de Dalverzin Tepe, c'était paru en 80-78, fait des remarques auxquelles on ne peut qu'adhérer sur cette hypothèse d'une influence d'Aristote sur l'urbanisme couchant. Ce précepte qu'Aristote semble être le seul à avoir jamais formulé est celui d'un pur théoricien. Il serait étonnant qu'après avoir, comme Aristote, réfléchi sur les mérites comparés de l'urbanisme hippodamien et de l'urbanisme sauvage, les urbanistes aient à Dalverzin planifié un découpage volontairement irrégulier de la ville basse. Je crois pour ma part que celui-ci résulte dans une large mesure d'un processus spontané qui exclut en tout cas l'application stricte d'un schéma unitaire préalable dès la naissance de la ville. On ne peut qu'être d'accord. En même temps, ce débat est aujourd'hui dépassé, justement par la fouille de Campyr Tepe, laquelle, au contraire, a montré, au bout d'un certain temps, ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite, que dans la ville basse, au moins, et peut-être enfin, en partie dans la citadelle, le réseau des rues avait au contraire, et le découpage en blocs, obéissait au contraire à une planification stricte et dépendante en fait de l'agencement du rempart. Je m'explique. On distingue 8 blocs d'habitation qui sont en fait, vous voyez, chacun isolé par des petites ruelles. Et si on regarde bien dans le détail, bon, c'est pas totalement régulier, mais le schéma est là. Chacune de ces ruelles conduit à l'entrée d'une tour. Et par ailleurs, les blocs ont une largeur moyenne qui correspond à un gabarit d'à peu près 19 mètres. Donc, il y a une pensée derrière tout ça. Ce n'est pas un urbanisme spontané. En fait, on voit bien les grands axes. Il existait certainement une grande rue qui partait d'ici, de cette tour, et qui devait longer le pied de la citadelle. L'entrée principale de la citadelle s'est toujours trouvée ici. Et très vraisemblablement, l'aboutissement de cette grande rue était l'embarcadère, aujourd'hui disparu dans la rivière. Il y avait par ailleurs une autre rue prolongeant cette ruelle et empruntant vraisemblablement le fossé au pied de la citadelle. Tout ça, c'est très oblitéré par l'érosion, mais on le devine. En tout cas, avec à l'intersection ici, probablement sur toute cette surface, une grande place qu'on peut appeler le bazar, dont la fonction est établie par les quelques locaux qui subsistent au nord-ouest, qui sont effectivement des boutiques ouvrant sur une place. Donc là, on voit quelque chose qui est structuré. Et donc, à partir de ces deux grandes rues, partait un réseau de ruelles qui aboutissait, vous voyez, dans chaque cas, à l'entrée d'une tour. Un réseau qu'on peut dire radial. Bon, bien évidemment, la fonction de ce réseau radial aboutissant aux entrées des tours, c'est la mobilisation immédiate de la population que, sur d'autres critères, on peut penser avoir été une population à caractère militaire. En cas d'attaque, faciliter les mouvements et permettre très rapidement de garnir les tours. Quand on s'est rendu compte de l'existence de cet urbanisme, qui n'est certes pas l'urbanisme hippodamien, puisque ce n'est pas en damier, mais qui est tout de même un urbanisme pensé, réfléchi, là encore, les collègues soviétiques ont tenté de théoriser et de chercher des modèles dans les sources écrites. Alors, On n'a plus cherché le modèle dans Aristote, on l'a cherché dans les traités indiens. Celui qui a entamé cette réflexion, c'est Boris Nedvinsky, qui a trouvé des analogies assez fortes entre un certain nombre des observations qu'on pouvait faire donc, sur la facilité de mouvement pour garnir les remparts, le découpage en blocs, etc., et ce qu'indiquent les traités normatifs de gouvernement qu'on a pour cette époque en Inde, le principal étant l'Arthashastra, le traité de gouvernement. Cette façon de raisonner, c'est pas a priori absurde, puisque l'Empire couchant a un pied en Inde, toute cette grande littérature indienne fleurit en grande partie sous la domination kushane, l'Arthashastra, un certain nombre. Les grandes pièces du théâtre indien sont vraisemblablement, pour une grande part, écrites à l'époque de l'Empire couchan. En même temps, à l'époque, Gérard Foussman avait critiqué ce rapprochement en insistant sur le fait que ces sources, ces traités normatifs indiens, d'abord ils sont normatifs, comme une grande partie de la littérature indienne, c'est-à-dire qu'on peut toujours. C'est l'œuvre d'intellectuels qui réfléchissent de manière extrêmement théorique. C'est un peu comme les traités des artisans sculpteurs. On peut tout de même à chaque fois se demander si ça entretenait un rapport si étroit que cela avec la réalité. Dans le cas des traités des artistes, des sculpteurs, on pense maintenant qu'en réalité, ils ont théorisé à partir des pratiques des sculpteurs. Et ce ne sont pas les sculpteurs qui ont suivi les indications des traités. L'Arthashastra, ce serait un peu la même chose. Ce serait une tentative de rationaliser les rattachant à des grands principes théoriques, des choses qui existaient déjà. Et puis la critique principale qu'on peut faire, c'est que ces traités ne sont en fait pas véritablement datables. On sait qu'il y a un niveau de rédaction à l'époque kushane, mais il y a des choses bien antérieures, remontant à l'époque Maurya, et puis surtout il y a des choses bien postérieures. En tout cas, ce qu'on peut dire sur l'acquis principal donc, de cette fouille de Campyr Tepe, c'est tout de même la mise en évidence d'une pensée urbanistique dans les créations nouvelles de la Bactrienne kushane. Alors, question liée, la nature de la défense, puisqu'il s'agit d'une forteresse. Il y a un débat assez ancien depuis le moment où on s'est occupé des fortifications d'Asie centrale, on s'est beaucoup demandé si elles servaient à quelque chose. Il est net que des fortifications comme celle d'Aïr-Hanoum, qui étaient des fortifications pleines, destinées à résister à des machines de siège, étaient fonctionnelles. Dans le cas des remparts d'époque kushane, qui sont des remparts creux, aux murs finalement minces, on s'est posé la question de savoir s'il ne s'agissait pas en réalité d'une architecture pseudo-militaire, d'un décorum qui n'aurait pas eu de véritable efficacité en cas de siège. Alors, je compare ici, c'est donc le site, je crois, c'est de Jan Davlak. Voilà le relevé des tours de Campyr Tepe, donc avec ces tours auxquelles aboutissent les rues. Il n'y a pas de rampe pour monter à l'étage, on pense qu'il y avait peut-être des escaliers en bois. Voilà les tours de Campyr Tepe. Je compare avec le rempart qui entourait le grand temple royal couchant de Surkhotal. Alors, quand on a publié sur Kotal, c'est Gérard Foussman qui l'a publié en utilisant également les contributions de Schlumberger et Lebert, qui étaient alors décédés, il a insisté, avec raison, sur le caractère factice de cette architecture militaire. parce que, si, comme vous pouvez le constater, les tours, les tours sont... Des meurtrières, il y en a partout. Ça, c'est toujours le cas dans l'architecture militaire de l'Asie centrale. Ils n'étaient pas avares en meurtrières, qui ont souvent une forme caractéristique de pointe de flèche. C'est très joli, ça évoque immédiatement la guerre, mais on peut se demander si ça servait à grand-chose. Dans le cas de Surcotal, il est absolument net que les seules meurtrières qui pouvaient servir à quelque chose étaient éventuellement celles des tours. Et encore, avec des angles de vie. Une meurtrière, pour être efficace, doit s'ébraser vers l'intérieur. Là, la capacité visuelle du tireur est réduite uniquement à ce qui arrive en face de lui. Et puis, comme vous pouvez le constater, les meurtrières des courtines servent à rien, puisqu'elles n'ouvrent qu'à l'extérieur. Elles ne rentrent pas dans le corridor. Alors, est-ce que c'est juste pour faire joli? Évidemment, il y a une explication intermédiaire. C'est le caractère psychologique et dissuasif. L'ennemi qui va attaquer une telle muraille ne sait pas si la meurtrière est réelle ou pas, ce qui va être un élément évidemment déstabilisant dans sa stratégie. Bon, ils nous ont pas laissé de... Les généraux de cette époque ne nous ont pas laissé leur mémoire pour nous permettre de déterminer ce qu'ils pouvaient penser de ce genre de choses. Je pense, enfin, pour ma part, qu'ils savaient très bien dans quel cas les meurtrières n'étaient pas fonctionnelles. À Kampir Tepe, ce qu'on constate, c'est qu'il y en a beaucoup et qu'elles sont toutes. Elles traversent toute la muraille. Elles donnent toutes sur la galerie intérieure, dont on ne sait pas véritablement si elle était où, si c'était une ruelle ouverte ou si c'était une galerie couverte. En tout cas, la défense avait lieu à partir de cette galerie et les meurtrières avaient une véritable efficacité. En fait, il existe une étude de reconstitution stratégique du potentiel du site par... Rouzanov, paru d'ailleurs en anglais en 1996, qui est vraiment bien faite. Et il fait des calculs du nombre d'hommes qui auraient été nécessaires pour garnir la muraille. Et on arrive finalement à des évaluations assez réalistes. Étant donné que tout était fait pour faciliter la mobilité, 300 hommes auraient suffi. Dans la partie fouillée, puisque, encore une fois, il y a une moitié qui nous manque. Bon. Mais donc, ça ne fait pas une population militaire énorme. Ça aurait suffi en cas d'attaque pour garnir toutes les tours. Donc, ce n'est pas irréaliste. Bien. Par ailleurs, ce qu'il importe de souligner, c'est que à Kampir Tepe, comme dans toutes les constructions militaires kouchanes connues, y compris, ce sont des caractéristiques qu'on retrouve aussi en Inde, dans la seule ville kouchane connue pour l'époque, Taxila, le troisième site de Taxila qui est Sirsur, probablement créé à l'époque des grands Kouchans. Cette architecture est très, très savante et très, très standardisée. On restitue en fait un étage sur les tours et puis encore au-dessus un étage ouvert. Donc la défense peut se produire en fait sur trois niveaux. Il y a des fossés, des contre-escarpes devant les remparts pour briser le mouvement d'attaque d'un attaquant éventuel. Donc tout ça a l'air quand même bien pensé. Et puis également, les gabarits sont absolument réguliers. L'épaisseur de extérieur d'une muraille kouchane, c'est 3,30 m. C'est rarement moins... c'est entre 3 mètres et 3,50 m et en général 3,30 m. Ça, nous le savons grâce à Henri-Paul Francfort qui, dans sa thèse qui a été publiée sur les fortifications en Asie centrale de l'âge du bronze l'époque kouchane, a mis en série la totalité des données chiffrées fournies par les rapports de fouilles. Et on arrive à, on arrive à trouver. Il démontre que on observe cette très grande régularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces remparts, de toute façon, il suffit de regarder à quoi ils ressemblaient, étaient édifiés par des professionnels dépêchés par le pouvoir central. C'est du travail d'ingénieurs. Ce sont des ingénieurs en fortification qui, certes, utilisent la main-d'œuvre locale, mais ce n'est pas du tout l'initiative locale. C'est une architecture militaire étatique et standardisée. Il est intéressant également de constater que quand on a créé la ville basse, quand on a créé la ville basse, on a prévu en fait sur toute une zone vide de toute construction le long, voilà. Sur toute la partie nord, il existe des constructions périurbaines, notamment à caractère funéraire, des deux côtés, est et ouest. Il n'y a rien sur la partie nord qui peut gêner le tir. Donc, c'était évidemment, tout ça a été calculé en fonction d'une attaque possible. Un détail très problématique, c'est ces plateformes de briques, qui bouche quasiment la galerie, la rue ou galerie couverte intérieure au rempart, et qui donc en fait ne facilite pas le mouvement. Alors les fouilleurs écartent l'hypothèse de rampe permettant d'arriver aux parties supérieures des tours. Bon, moi je pense que ça pourrait être éventuellement défendu. Il s'arrête à l'idée de socle pour des catapultes. Ça pose quand même un problème parce que il est généralement admis, et c'était en tout cas, après d'autres, la conclusion d'Henri-Paul Francfort, que cette architecture militaire kushane qui voit réapparaître, se généraliser la mode du rempart creux et mince, qui avait existé en Asie centrale jusqu'à l'époque grecque et avait à l'époque disparu au profit de remparts massifs, cette mode était liée justement à la disparition de la guerre de siège. C'est-à-dire que quand l'ennemi auquel on va avoir à faire face, ce sont des troupes de nomades ou de pillards, armées à la légère, très mobiles, des troupes d'archers, on comprend qu'on fasse des remparts creux. Parce que ce qui importe, c'est de bouger très vite pour se porter très vite sur le point menacé. On n'a pas à faire des remparts forts, parce que l'ennemi qui va attaquer n'a pas de bélier, n'a pas de machine pour faire céder les murailles. Ça contredit un peu cette hypothèse. En même temps, on peut peut-être supposer que la présence de catapultes dans une ville assiégée ne veut pas forcément dire que les gens en face vont avoir des béliers. La catapulte peut servir à autre chose qu'à repousser des attaques de béliers ou de sapeurs qui visent à détruire les murailles. Ça peut également frapper des troupes légères. Donc là, la question est ouverte. Quelque chose qui apparaît aussi assez nettement, c'est que il n'y avait pas de ligne de défense arrière. C'est-à-dire que la citadelle, à l'époque, gardait son ancien rempart, mais il était complètement encrassé et encombré de constructions parasites. Et puis surtout, on voit très bien qu'il avait existé une ruelle à l'intérieur, une zone non edificandi, pour permettre de le garnir de troupes, mais que c'était bouché de partout. Donc ça ne servait plus à rien. Donc une fois la ligne extérieure prise, la ville était perdue. Il n'était pas besoin de rues labyrinthiques ou pas, il suffit de regarder la maquette du site qui est présentée au musée de Termez. L'ennemi qui aurait pris la muraille n'avait qu'à marcher sur les toits. Et les rues pouvaient, on pouvait parfaitement franchir les rues en sautant. Les rues faisaient 1,80 m de large. Donc, c'était la ligne extérieure était en même temps la ligne de la dernière chance. En tout cas, tous ces magnifiques efforts de rationalité défensive n'ont jamais servi à rien, puisque on a suffisamment fouillé qu'Empire TP pour pouvoir l'affirmer, la ville n'a jamais été attaquée. C'est le désert des Tartares. Il n'y a aucune trace qu'elle ait jamais subi un siège. Et la catastrophe qui a conduit à l'abandonner, sans doute à la fin du règne de Kanishka ou au début du règne suivant, est très vraisemblablement une catastrophe naturelle, la chute d'une grande partie de la ville dans le fleuve. Alors, arrêtons-nous maintenant sur la ville basse. Ce qui en a été fouillé intégralement représente à peu près 4 hectares. La taille globale du site, si on ajoute la citadelle, si on ajoute tout ce qui a été, tout ce qui est perdu, tout ce qui est tombé, et également un certain nombre de zones qui probablement n'étaient pas construites, pourrait avoir atteint une vingtaine d'hectares. Quand il s'agit de déterminer les critères, la manière dont la population se groupait, se séparait à l'intérieur de l'espace bâti, Empire TP est un cas d'école très intéressant, parce que la pensée des fouilleurs a évolué. Ils ont d'abord raisonné en termes de blocs définis par le réseau des rues. C'est-à-dire que, on voit, à la citadelle, ils ont déterminé l'existence de 7 blocs, et à la ville basse, de 10 blocs. Par la suite, ils ont changé de perception, et c'est une réflexion qui, d'ailleurs, ne s'est pas limitée qu'au cas de Empire TP. Ils ont ensuite plutôt proposé des schémas où les rues font partie intégrante des blocs, et les véritables séparations entre unités résidentielles seraient en réalité les murs. L'exemple est assez net ici. C'est un des secteurs de la ville basse. Dans leur premier schéma de découpage, ils avaient découpé un bloc comme celui-là, vous voyez, avec une rue ici, une rue là, une rue là. Et une rue là. Donc ici et ici, c'était deux blocs différents. Et dans les dernières présentations, en réalité, ils font de cette rue non pas une séparation, mais un axe. Et la véritable séparation, c'est au milieu du bloc, au milieu de l'espace délimité par des rues, les murs arrière des maisons, qui ont d'ailleurs un tracé sinueux, et où s'ouvrent très peu de portes. Donc, le véritable quartier, ce serait ça. Et la rue fait partie du quartier. Alors qu'auparavant, les rues séparaient les quartiers. Pourquoi cette révision dans la façon de percevoir les choses? Vous voyez donc que le même raisonnement, en fait, a été fait à la citadelle, où dans les derniers articles parus, les tentatives pour délimiter des unités obéissent plutôt à ce principe de la rue qui est en fait à l'intérieur et le véritable contour qui sont des murs mitoyens. Cette révision du raisonnement cette révision des raisonnements est due d'une part à une réflexion, donc la réflexion, la prise en compte des traités indiens dont j'ai parlé tout à l'heure, où on voit très bien que ce qui délimite les quartiers, ce sont les murs, ce ne sont pas les rues, et d'autre part et surtout les travaux ethnographiques sur la période, l'Asie centrale à la période pré-soviétique. Et notamment, la plus importante documentation ethnographique sur les villes d'Asie centrale à l'époque pré-soviétique, ce sont les travaux faits sur le vieux Boukhara par Sukhareva, qui y a consacré sa vie. C'est un énorme ouvrage où elle a étudié donc, ce qu'on appelle, dans le vocabulaire local, le système des mahalas, les unités d'habitation, et où on voit que effectivement, ce qui délimite les mahalas, ce sont les murs mitoyens, et les mahalas sont pénétrés par une rue ou plusieurs rues, mais qui en font partie intégrante et qui, en fait, la nuit était fermée. Il y avait des portes qui les condamnaient. Donc, ça change complètement la façon de percevoir le réseau des quartiers. Alors, actuellement, plusieurs missions archéologiques en Asie centrale, enfin, disons, les missions archéologiques qui ont fouillé des villes dans des proportions suffisamment importantes pour qu'on puisse faire ce genre de raisonnement, sont en train de revoir complètement leur conception du zoning. Alors voilà la ville de Paykent, près de Boukhara. Alors là, j'anticipe sur des choses dont je vais parler plus en détail dans le cours de l'année prochaine, donc les villes sogdiennes, la nouvelle urbanisation en ville moyenne qui gagne l'Asie centrale à partir du 5e siècle. Donc Paykent, disons, c'est une ville qui a pris ses traits essentiels au 5e, 6e siècle, qui a vécu jusqu'au 11e. C'est une ville actuellement fouillée sur une assez grande proportion. Dans les anciennes publications, jusqu'en 1986, voilà comment les fouilleurs voyaient la ville. Un premier rempart ici, une extension ici, bon ça c'est une idée qui a été maintenue, et puis des tours espacées régulièrement. Alors bah, ils ont tracé à la règle des lignes entre les tours, voilà, et ils ont supposé l'existence d'une grande rue principale est-ouest, et on arrive à un système très plaisant pour l'esprit, de quartiers, un urbanisme de type effet, qui rappelle un peu l'urbanisme hippodamien. Oui, sauf que quand ils ont été vérifiés dans le détail, le schéma s'est complètement écroulé. Et maintenant, voilà l'urbanisme de Paykent. On arrive à des quartiers qui peuvent être rectangulaires, très allongés, dans lesquels il n'est pas toujours facile d'observer des gabarits. Oui, la largeur d'une rue à l'autre, c'est un gabarit d'à peu près 20 mètres. C'est ce qu'on observe d'ailleurs déjà à Kampir Tepe. Pour la longueur, ça varie beaucoup. Et puis surtout, ce qu'on constate, c'est que on a très très peu de cas de carrefours à quatre rues. La quasi-totalité des carrefours observés sont des carrefours en L ou des carrefours en T. Donc, on voit que la fonction des rues dans un système comme celui-là est peut-être de deux ordres. Les rues font partie du quartier et peuvent être condamnées éventuellement et servent uniquement à la mise en communication intérieure au quartier des maisons les unes avec les autres. Et par ailleurs, les rues qui délimitent les quartiers servent davantage en fait à les isoler qu'à les mettre commodément en communication les uns avec les autres. Ils se sont amusés à Paykent à calculer certains itinéraires qui permettaient d'entrer ou de sortir dans la ville. Il fallait un GPS. Le marcheur devait sans arrêt tourner à angle droit. Bon. Donc, on est en train... Tout ça, cette réflexion est en train de bouillonner. On est en train de réviser complètement la conception des circulations et de la délimitation des groupes d'habitation dans les villes préhistamiques d'Asie centrale. Alors, en liaison avec cette réflexion, se poursuit donc la recherche d'un vocabulaire technique permettant de décrire la hiérarchie des unités d'habitation. Alors, j'ai fait ce petit tableau pour montrer à quel point aujourd'hui on est loin d'une terminologie unifiée. Selon les auteurs, et parfois à l'intérieur de l'évolution de la pensée d'un même auteur, le vocabulaire change complètement. Alors, si on ajoute à ça que le vocabulaire de nos collègues russophones d'Asie centrale est parfois un vocabulaire assez jargonnant qui ne se trouve dans aucun dictionnaire russe. Et si on n'a pas la pratique de la lecture de leurs publications, on a beaucoup de mal parfois à comprendre ce qu'ils veulent dire. Alors voilà, j'ai donné quelques exemples ici. Penjikent, une ville dont je vais être beaucoup amené à parler dans les années à venir, où là, on a la ville, c'est comme c'est l'équivalent pour l'époque sogdienne de pré-islamique, de Kampir Tepe pour l'époque Kouchade. C'est fouillé, Penjikent est fouillé aux deux tiers ou aux trois quarts. Donc là, on a un effet de seuil. On peut vraiment voir l'organisme urbain fonctionner. Bien. Alors, à Penjikent, il propose, donc, dans ce livre fondamental de Raspopova, les habitations de Penjikent, essai d'interprétation historico-sociale. Pas commode à lire. On a une hiérarchie à trois termes. On a Kvartal, qui est donc le quartier. Alors ça, c'est délimité par les rues. Puis à l'intérieur du quartier, on a Domovladenie, que je traduis unité immobilière. C'est, disons, la maison telle qu'elle a été conçue et telle qu'elle s'est construite. Et puis on a Jiliché, unité résidentielle. C'est les pièces d'habitation telles qu'elles se sont mises en place au terme d'une évolution, marquée beaucoup plus par le fractionnement, marquée en partie par le fractionnement, en partie par le regroupement. Donc, un raisonnement à trois termes. Les blocs délimités par les rues, les maisons telles qu'elles ont été au départ conçues, et les maisons telles qu'elles les locaux d'habitation tels qu'ils sont finalement devenus. Alors, à Kampir Tepe, dans le dernier état des publications, on voit qu'ils ont tenté une certaine harmonisation avec la terminologie de Penjikent. Donc, on a à nouveau Kvartal, entre les rues. Après, on a Jiloy Complex, que moi je suppose être l'équivalent de Domovladenie, c'est-à-dire c'est le complexe résidentiel tel que le définissent les mises en communication. Voilà, c'est ça. Et puis, au stade inférieur de la hiérarchie, on a le bloc résidentiel ou la section résidentielle, qui est l'unité résidentielle minimale, 2 à 4 pièces. Voilà. Alors, donc, ce qui complique tout, c'est que d'un auteur à l'autre, comme vous voyez, ils n'emploient pas la terminologie exactement dans le même sens. À Penjikent, on n'a que quartier, mais comme je viens de le dire, leur définition a évolué au fil des publications. Ce n'est pas du tout un reproche que je veux faire à nos collègues. C'est une façon, ça illustre le fait qu'il s'agit d'une réflexion évolutive et qu'au fur et à mesure de l'accumulation des données, ils s'efforcent d'ajuster le vocabulaire et par conséquent les concepts à la réalité archéologique perceptible. Une observation intéressante faite à Kampir Tepe, c'est que donc là, on aurait Kvartal qui serait ça, hein, au départ, découpé par les rues. On aurait ensuite là-dedans un certain nombre d'unités résidentielles où, disons, les gens, on voit très bien qu'il y a des portes, que ce sont des gens qui sont en relation les uns avec les autres, et puis des sous-unités, on en voit très bien une ici, vous voyez, une de trois pièces, voilà, des petits blocs, 2, 3, 4 pièces, C'est là où vivent les unités minimales, c'est-à-dire, peut-on supposer, les familles nucléaires. Bien. Alors, ce qu'on constate aussi à Campyr, c'est que chaque petite, on peut dire des appartements, les appartements sont très loin d'avoir chacun sa cuisine. Il y a en fait des espèces de cantines. On voit très bien qu'il y avait une certaine organisation collective, à la fois dans l'organisation de la fourniture de la nourriture et également dans son stockage. Vous voyez, on voit très bien sur le plan des pièces affectées uniquement au stockage en jarre et qui évidemment n'appartenaient pas qu'à la personne qui habitait juste à côté. Une certaine organisation collective. Ce qu'on a bien connu dans les grandes villes en Russie jusque dans les années 60, les appartements coopératifs où vivaient un certain nombre de nos collègues et où effectivement, dans les anciennes maisons récupérées sur la grande bourgeoisie et l'aristocratie, étaient attribuées, divisées en petits blocs d'une, deux, trois pièces, mais toutes les commodités étaient collectives. Alors, une commodité collective qui échappe beaucoup à la perception, ici, c'est les salles de bain. Alors, il y a quelques pièces qui ont eu un usage, des pièces à effet d'eau, mais alors très rudimentaires, c'est ce qu'on appelle dans les publications les teshnab, c'est vraiment le trou où évacue l'eau de la bassine qu'on vient de se verser sur la tête. Ça n'a absolument rien à voir avec les installations balnéaires sophistiquées à caractère public, privé ou semi-privé qu'on avait à Ayranoum, où chaque maison, y compris la seule ferme qu'on a fouillée dans la plaine, avait une salle de bain avec un sol garni de galets, de mosaïques à galets, des installations de chauffage, etc. Les installations, disons, d'hygiène collective sont un phénomène qui, en Asie centrale, apparaît avec les Grecs, disparaît avec eux et réapparaît avec l'islam. Réapparaît très vite. Sur un site comme Samarcande, c'est absolument flagrant. Dès le moment où on est dans la période islamique, on a deux choses qui apparaissent. On a des salles de bain, des hammams, et on a du verre. Et entre les deux, plus rien. Ou des choses, ça ne veut pas dire évidemment qu'ils ne se lavaient pas, mais c'est une autre approche de l'hygiène corporelle, disons beaucoup plus rudimentaire, beaucoup plus simple. Une question que je laisse en suspens pour le moment, puisqu'elle va faire l'objet d'une réflexion au séminaire. C'est là, évidemment, le problème d'un autre type d'installation collective qu'on attend dans une ville, ce sont les installations cultuelles. Il y a un schéma, on peut dire qu'il y aurait un schéma maximaliste et un schéma minimaliste. Le schéma minimaliste serait celui de Paul Bernard. Il n'y a rien dans tout ce qui a été publié ici qu'on peut dire culturel. Campyr Tepe était-il peuplé de libres penseurs? Ça n'est pas pour ma part l'idée à laquelle je m'arrête. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y avait un temple ou des temples, il devait y en avoir un puisque la ville n'était pas grande, mais qu'il était près de la rivière. Or, nous le verrons dans les séances qui seront consacrées au culte en Bactriane à l'époque hellénistique, les lieux de culte sont près de l'eau et ont un rapport évident avec des divinités fluviales. Et ça devait être le cas évidemment aussi à Campyr Tepe. Campyr Tepe est sur le fleuve Oxus. Le fleuve Oxus est un dieu. Nous le savons par les monnaies couchanes. Le temple de Campyr Tepe, il devait être à côté de l'embarcadère sur la rivière. Alors, là, il y a une conception maintenant maximaliste qui est celle des fouilleurs, certains des fouilleurs, qui est de dire, mais il y avait des petits sanctuaires partout. Bon, alors, ici, en fait, il y aurait eu dans la ville basse, en gros, pour eux, un foyer appliqué contre un mur est nécessairement cultuel. Bien. Je schématise à peine, parce qu'en fait, pour certains écrivent les choses comme ça. Quand on écrirait cheminée ou foyer, ils écrivent altar, hôtel. Bien. Alors, je ne reviens pas là-dessus. C'est une discussion extrêmement délicate, difficile, dont les bases théoriques ont, à mon avis, été posées de la manière la plus solide par Paul Bernard dans son compte-rendu de la fouille de Dalvers in Tepe, que j'ai été amené à mentionner. Il concluait très largement par la négative. Une réflexion que j'ai commencé avec Michael Schenker à propos de tous les exemples qu'on a à Camp Pir Tepe, où là, on peut vraiment contextualiser tout, puisque c'est le seul cas où on sait exactement tout ce qui a été trouvé dans chaque pièce. Telle réflexion nous amène à adopter, disons, un schéma peut-être un peu intermédiaire, c'est-à-dire que, certes, ces foyers ne servaient pas qu'au culte, ce ne sont pas ce qu'on appellerait des hôtels du feu, mais pour certains d'entre eux, au moins, une utilisation partiellement religieuse paraît assez vraisemblable. Et certains, en tout cas, bon, l'implantation de certains de ces foyers ne semble pas toujours complètement fonctionnelle. Il y aurait autre chose derrière tout ça. Mais bon, ça ne peut pas être abordé de manière superficielle. Je renvoie ça à la réflexion qu'on aura au séminaire. Quelques mots sur la nature des activités, la nature possible des activités économiques de la population. Elle est très difficile à cerner, cette activité économique. Quelle pouvait bien être la base économique d'un site comme celui-là ? C'est pas l'agriculture. Voilà Camp Pir Tepe. Les zones irriguées dans les environs, la surface irrigable dans les environs est vraiment faible et dispersée. Pour l'époque kouchane, c'est uniquement, j'emprunte ce schéma à Sébastien Streit qui a étudié l'irrigation dans cette zone, c'est vraiment des cônes d'épandage très limités des torrents qui viennent des petites rivières qui viennent de la montagne, il y en a un là, tout ça mis bout à bout, ça fait pas une ceinture maraîchère pour une ville même moyenne. Donc certainement une partie de la fourniture alimentaire devait venir d'ailleurs, on peut penser évidemment par le fleuve. Bien. Alors ce qui est irrigué, tout ça est irrigué aujourd'hui à partir de là, mais ça c'est le canal Zang, c'est une grande réalisation de l'époque soviétique. Avant, il n'y a pas du tout ça. C'est vraiment réduit à très peu de choses. L'arrière-pays agricole, fort réduit. Activité artisanale. Je l'ai mentionné au cours précédent, il y a une activité de potier, mais uniquement pour l'époque hellénistique, à l'époque où le site a peu d'importance et n'est pas fortifié. Ce sont les fours retrouvés dans la ville ou à sa périphérie. Aucun n'est postérieur à l'époque hellénistique. Et il serait étonnant si on avait eu qu'on n'en ait pas trouvé, étant donné, c'est même impossible, étant donné la façon dont, quasi exhaustive dont la ville a été fouillée. Alors, on voit, d'après le matériel retrouvé, qu'il y avait une activité militaire. Le contraire serait vraiment très étonnant, étant donné ce que je viens de vous expliquer. Dans certaines pièces, on a trouvé effectivement des morceaux d'armure en écailles, des armes de jet, donc il est clair que c'était une population qui se servait d'armes. Mais ces armes, semble-t-il, n'étaient pas fabriquées sur place. On n'a pas d'arsenal. Une activité administrative, alors possible, oui, parce que dans une pièce, on a trouvé des textes écrits en bactrien, donc la langue iranienne locale, sur des rouleaux de parchemin. Malheureusement, il a été complètement impossible de les déchiffrer. Tout ça est tombé en poussière au moment où on essayait de les ouvrir. Alors, Si on en retrouvait, alors aujourd'hui, avec les nouvelles techniques mises au point par une équipe israélo-suédoise pour le déchiffrement des papyri brûlés de la Villa des papyri de Pompéi, qui ont abouti à multiplier par 50 le nombre de textes lisibles à Pompéi, on arriverait probablement à quelque chose. Mais ce qui a été trouvé est complètement perdu. En tout cas, aucun bâtiment n'a pu être dans la fouille, être identifié comme un bâtiment de chancellerie. Alors il reste finalement ce que nous disait le texte de Hafez et Abrou. Oui, on m'a corrigé, c'est pas Abrou, c'est Abrou, que j'ai cité, le texte tardif, mais bien informé, que j'ai cité la dernière fois, qui parle de cette ville dans la région de Termès qui avait un nom qui remontait au grec, l'auteur le sait encore, au XVe siècle, Pandokeion, l'hôtellerie, qui est sans doute Campyr Tepe, peut-être deux sites à côté en même temps. Fonction d'emporium, fonction d'hospitalité, puisqu'il est dit dans ce texte que la population se consacrait aux opérations de passage sur la Moudaria et que les habitants logeaient les voyageurs logeaient chez l'habitant et que les habitants se disputaient la clientèle. Ça a un certain air de vérité, ce témoignage. Bien. Ça pourrait expliquer cette fonction essentielle d'emporium et d'hospitalité, pourrait expliquer qu'à la dernière période, on trouve effectivement des stockages de jarres, donc j'en ai signalé donc dans quelques pièces, et également la citadelle tout entière, en fait, la citadelle tout entière se trouve envahie, n'est pratiquement plus affectée à des fonctions résidentielles en réalité, c'est uniquement un lieu de stockage. Voilà. Elle devient à la toute dernière période, ça ce qu'on voit ici en fait c'est pas la toute dernière période. À la toute dernière période, on voit déjà sur ce plan, mais ils ont affiné leurs conclusions entre-temps, tous ces petits ronds là que vous voyez dans divers endroits, ce sont des jarres qui ont fini par envahir la totalité. Donc la citadelle est devenue un grand lieu de stockage. Hôtellerie, possibilité d'une hôtellerie, d'une fonction hôtelière chez l'habitant. Alors, pour terminer, une observation anecdotique, mais très curieuse, sur laquelle j'ai eu l'occasion de m'entretenir beaucoup avec les fouilleurs sur place. On trouve assez souvent, dans certaines maisons, des petites pièces de monnaie, pièces de cuivre, dissimulées dans des joints de briques. Alors, ce n'est pas ce qu'on appelle des trésors monétaires, puisqu'elles sont isolées. Des trésors monétaires, on en trouve dans des murs ou sous des sols, mais c'est des ensembles de pièces qui sont... D'abord, ça a une certaine valeur, et puis c'est dans des sacs ou dans des jarres, etc. Là, ce sont des pièces glissées dans les joints de briques, à l'unité. Alors, évidemment, quand en archéologie, il y a quelque chose qu'on ne sait pas expliquer, on va dire que c'est cultuel. Là, en l'occurrence, nos collègues de Campyr Tepe, qui, de ce point de vue-là, sont des gens en fait, qui ont beaucoup plus les pieds sur terre, en réalité, qu'un certain nombre d'autres, ont cherché des explications rationnelles. Alors, bon, on peut penser à des petits larcins, voilà, des dissimulations de petits larcins. Ils ont pensé à autre chose qui conviendrait assez bien à un emporium et à un lieu de passage, ce serait la dissimulation de petits revenus liés à la prostitution. On n'a pas trouvé à Campyr Tepe de local nettement affecté à ce type d'activité. On en a trouvé un à Merve, qui a d'ailleurs été au départ identifié comme un monastère chrétien, mais on sait maintenant. Entre-temps, on s'est aperçu que l'armée sassanide en 484 était passée par là, il y avait laissé des pièces de monnaie. Donc on a pensé à quelque chose de plus consolant pour les troupes qui allaient affronter les Eftalites. Et puis on en a trouvé un à côté du bazar de Penjiken. Pas à Campyr Tepe, mais là aussi. c'est une activité qui aurait pu se dérouler, disons, de manière discrète et privée dans le cadre des hospitalités domestiques. Voilà. Donc, tout ça pour dire que... alors, je n'ai pas complètement épuisé le sujet sur Campyr. D'ailleurs, il n'est pas possible d'épuiser rapidement le sujet sur Campyr TP, puisqu'encore une fois, la masse documentaire qu'ils ont produite dans des délais vraiment exemplaires et avec un grand soin dans le détail est énorme. Bon, il y aurait vraiment de quoi faire plusieurs thèses sur Campyr TP. Mais je serai amené donc la prochaine fois, en liaison avec l'intervention d'Étienne de la Vessière, à, disons, prendre un petit peu de hauteur et envisager ce qu'était finalement ce site dans la perspective globale de l'urbanisme couchant, de la gestion de l'état couchant, en liaison probable avec plusieurs autres sites, dont un, justement, qui est en train d'étudier Étienne. Voilà, donc peut-être, avant de passer la parole à Bertil Lyonnais sur les questions liées à la fin de l'âge du bronze et l'âge du fer, on peut faire une petite pause. S'il y a des questions, bien entendu, je suis disposé à y répondre. On peut aussi avoir une discussion la semaine prochaine, quand on aura vu de manière synthétique les problèmes que pose le site.